Cours de la philosophie première, la substance, de Père Marie Dominique Philippe, le 29 septembre 1999 à Saint-Gérard.
Vous êtes déjà très lancé dans l'année au plan philosophique. Alors, il y a un stop pour entrer en philosophie première. Alors, si vous voulez, d'abord, la question du nom. Très intéressant. On dit métaphysique, on dit philosophie première, on dit ontologie fondamentale. Pour comprendre ces mots qui expriment quelque chose, Aristote n'a jamais parlé que de philosophie première. Et donc, au fond, on a avantage à dire philosophie première. Surtout qu'il y a eu des grands enterrements pour la métaphysique. Alors, la philosophie première a continué d'exister grâce à Husserl, qui parle de philosophie première, dans un sens tout à fait différent, tout à fait nouveau, mais quand même, philosophie première ne dit pas métaphysique. La métaphysique est enterrée dans le langage courant, et même dans la Sainte Église, sauf depuis que le Saint-Père l'a ressuscité. Pour nous. Et c'est important, hein. Je n'ai pas le droit de ne pas en parler. Mais d'abord, si vous voulez, regardons ça, cette petite question de mots. Le mot métaphysique est arrivé tout simplement d'une façon tout à fait matérielle. Causalité matérielle, tout à fait. C'est les bibliothécaires qui redécouvrent les livres d'Aristote qui avaient disparu. On n'en parlait plus. Ils ont trouvé tous les livres de physique, de biologie, physique et philosophie du vivant. Puis tout d'un coup, quelque chose de tout à fait différent. Ce que nous appelons aujourd'hui la métaphysique, alors ils l'ont appelé métaphysique, après la physique, il y a eu quelque chose. Vous voyez, très très joli, métaphysique, métabiologie. Il y a eu quelque chose. Alors ils ont dit métaphysique, et comme c'était très simple, on a continué d'appeler ça. Et en réalité, c'est la philosophie première d'Aristote. Oui, alors c'est amusant de voir que le nom pratique des bibliothécaires est resté. Ça sert à quelque chose, vous voyez. Il est resté. Et le nom philosophie première d'Aristote, qui est venu de l'intérieur, pratiquement, il a disparu. La scolastique ne parlait jamais de philosophie première, parlait tout le temps de métaphysique. Et avec la scolastique, c'est ça qui a duré. Et alors, avec Heidegger, on a parlé de l'enterrement, de l'ontologie fondamentale. On a parlé de l'enterrement de l'ontologie théologique. On a parlé de l'enterrement de la métaphysique et on a voulu, à la place, puisque c'est très curieux, mettre tout de suite l'ontologie fondamentale. Et l'ontologie fondamentale, ontos, ontologie, en grec, étant. De sorte que, depuis Heidegger, on considère que la métaphysique classique, celle, la métaphysique de Wolf, parce qu'en réalité, Heidegger identifie métaphysique thomiste avec Wolf, la métaphysique de Wolf, qui est tout à fait différente. Mais c'est celle-là qu'on a enterrée. Et d'une certaine manière aussi, la laission de côté. C'est pour vous montrer que, au fond, c'est assez significatif. Il y a des mots qui sont restés très fidèles, qui n'ont pas bougé. Philosophie du vivant. Philosophie du devenir. Éthique. Alors, on a discuté entre éthique et morale, c'est sûr. Il y a deux mots comme ça qui se croisent, qui se saluent. Mais pour la métaphysique, il y a plus que ça. Il y a Aristote qui découvre la philosophie première. Et je crois que nous mettons métaphysique dans le langage des couloirs. C'est très bien. Mais au fond, progressivement, je crois qu'on devrait arriver à mettre uniquement philosophie première. Parce que dans le courant actuel, philosophie première reste un nom classique qu'on respecte, puisque Husserl en a parlé, donc c'est très respectable. Tandis que la métaphysique, celle de Wolff, on a dit que c'était fini. Heidegger a présidé les funérailles solennelles de la métaphysique. Et mettre à la place l'ontologie fondamentale. Il ne faut surtout pas mettre l'ontologie fondamentale. Pourquoi Aristote dit philosophie première? Elle est première dans l'ordre de dignité. Pour Aristote, et ça, je crois qu'il faut le maintenir, cette distinction, il y a deux ordres. Un ordre génétique, un ordre de noblesse, de perfection. Et la sagesse a un ordre de perfection. Et la recherche a un ordre génétique. Quelqu'un comme Merleau-Ponty voulait qu'il n'y ait plus que la recherche. Et dans notre monde d'aujourd'hui, il n'y a plus que la recherche. La psychologie a mis avant tout l'ordre génétique, l'ordre de recherche. Et je dis, pour Merleau-Ponty, c'est le seul ordre qui reste, l'ordre de recherche. Alors, la recherche commence par l'imparfait vers le parfait. Ça, c'est l'ordre génétique. La semence de la moutarde, de la graine de moutarde, est la plus petite et elle devient un grand arbre. Ordre génétique. Passe de la semence au grand arbre. On passe du berceau et même du sein maternel, puisque aujourd'hui c'est ça qui intéresse les gens. On s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe dans le sein maternel, puisqu'on peut tout dire, on ne peut pas vérifier. Donc ça va. Alors, avec le sein maternel, on peut faire de très grands voyages. C'est sûr. Vous avez tous fait en subissant ça et sans rien dire. Vous étiez une patience merveilleuse. La patience du tout petit enfant, vous avez pâti merveilleusement. Vous avez été un novice de la nature humaine. Et le novice de la nature humaine, c'est dans le sein maternel. Donc, il n'a pas eu de visage propre. Il était uniquement quelqu'un que la mère attendait. Pour la mère, c'était quelqu'un. Pour les autres, elle attend un enfant. Un enfant, oui, un enfant. C'est pas comment on veut préciser. Et aujourd'hui, on cherche à préciser le plus qu'on peut. Mais ça reste quand même toujours un peu les catacombes cachées. Il y a du visage. Mais on a commencé sans marcher. La philosophie du vivant, c'est très important. La marche à quatre pattes. L'enfant a commencé comme ça. On voit très bien le reste de l'animal, soit il a commencé à quatre pattes, puis il s'est redressé. D'où l'insistance d'Aristote pour la droite, pour la être debout. Être debout. C'est quand même quelque chose. Oui. On passe du règne règne horizontal, un règne vertical. Et ça revient beaucoup aujourd'hui. Or, l'ordre génétique, c'est de l'ordre horizontal. Et l'ordre vertical, c'est la sagesse ou la perfection. On commence par l'intelligence. Oui, ça revient tout le temps. C'est pour ça que cette distinction d'Aristote est très actuelle. Horizontal et vertical. Hein. Est-ce qu'il est vertical? Est-ce qu'il est horizontal? Au point de vue psychologique, il reste tout le temps dans l'horizontal. Ça, insipide. Il n'y a pas de tête. C'est vrai, dans l'horizontal, il n'y a que les quatre pattes. Il n'y a pas de tête. Alors, il continue de marcher. C'est sûr, mais la tête. Puis tout d'un coup, il se lève. Vertical. Bon, ça, c'est très important de comprendre que Aristote dit philosophie première, sagesse. Pour lui, la philosophie première commence par une recherche scientifique et elle s'achève par une contemplation. L'au-delà de l'analyse, la contemplation. L'au-delà de cet aspect proprement scientifique au sens aristotélicien, l'épistémé, s'achève en sagesse. Et le Saint-Père reprend avec vigueur ces deux aspects en montrant que une philosophie qui n'atteint pas la sagesse n'est pas digne de ce nom. C'est extrêmement audacieux de sa part. Parce que quelles sont les philosophies aujourd'hui qui sont sagesse? Ça, c'est une grosse question que nous devons tout le temps nous poser. Et dès le début de la philosophie première, vous voyez, nous devons nous poser, nous entrons avec la philosophie première dans quelque chose de nouveau. Il y a bien une continuité avec la philosophie du vivant, avec la philosophie du devenir. Il y a bien une continuité entre l'éthique et la métaphysique. C'est sûr, il y a une continuité. Mais il y a un passage extrêmement important. Le passage de la découverte de la sagesse. Et dans notre monde d'aujourd'hui, vous comprenez, on ne parle plus que de science, on ne sait plus du tout. Et on considère que entrer dans la sagesse, ce n'est plus scientifique, donc un mépris souverain, vous restez dans une sagesse, c'est le rêve, c'est la physique. Et je crois que c'est très important pour nous de comprendre la différence entre science, et alors là, si je parle science, prenez bien la différence entre science mathématique, science aristotélicienne et sagesse. La science mathématique cherche les relations nécessaires. Et toutes les sciences modernes sont sous la lumière mathématique. Ça, c'est net. La science moderne cherche des lois. Des lois. Qu'est-ce que c'est que des lois? C'est une relation nécessité entre antécédents et conséquents. Donc c'est une relation. Et c'est la logique stoïcienne. Si ceci arrive, cela pourra arriver. Si ceci n'arrive pas, cela n'arrivera pas. Donc il y a une brisure dans les liens d'antécédents et conséquents. Et c'est la seule chose qu'on cherche. En science, c'est ça qu'on cherche. On cherche les relations nécessaires. Et c'est, au fond, le sommet de l'intelligibilité. Pour Aristote, et c'est resté longtemps, ça, hein, au Moyen-Âge, c'était le sens de la science. Alors, les mathématiques avaient quelque chose de très particulier qu'on laissait un peu de côté. C'est la différence entre Aristote et Platon. Platon intègre les mathématiques dans la recherche de la sagesse. Aristote laisse les mathématiques de côté dans la découverte de la sagesse. On peut dire que c'est cela qui montre la grosse distinction entre Platon et Aristote. Pour Platon, il est nécessaire de passer par les mathématiques. Nécessaire. Il y a une continuité entre les mathématiques et la philosophie platonicienne. Pour Aristote, il y a discontinuité entre les mathématiques qui existent. Et même pour Aristote, c'est l'intelligence a commencé par être une intelligence mathématique. Les mathématiques, c'est la formation la plus fondamentale de notre intelligence. Mais à un moment donné, quand on n'a plus voulu de sagesse, on s'est replié sur les mathématiques qui ont joué un rôle analogue à la sagesse ancienne. C'est une très grande révolution au point de vue de l'intelligence. Alors, ça ne s'est pas fait directement, immédiatement, ça s'est fait petitement. Par la logique. Par la logique. C'est la logique qui a pris la place de la métaphysique. Et en prenant la place de la métaphysique, la logique s'est laissée absorber par les mathématiques. Il y a comme ça des liens très crus. Et c'est important, vous voyez, de bien comprendre ces choses-là, historiquement, comment ça s'est passé. Parce que nous arrivons, nous, à un moment extrêmement important, difficile à préciser, bien difficile à comprendre, mais important. Et ceci est très important si nous sommes chrétiens. Si nous sommes chrétiens, nous assistons, et je peux dire que l'encyclique du pape, pour cela, est pour nous quelque chose d'essentiel. Avant l'encyclique du pape, on pouvait dire, voilà, on doit faire ça pour maintenir la recherche de la vérité. Pour maintenir la recherche de la vérité, on doit découvrir la sagesse. Pour maintenir que la contemplation n'est pas une rêverie, que la contemplation n'est pas chose imaginative, que la contemplation reste le sommet de ma recherche intellectuelle, humaine. Je ne peux pas être véritablement un homme sans la contemplation. Parce que sans la contemplation, je n'aboutis pas à la sagesse. Alors, ça, c'est terrible. Sans la contemplation philosophique, hein, contemplation humaine, hein, je ne parle pas de la contemplation mystique, de la contemplation chrétienne ici. Mais vous voyez comme c'est important, parce que la mystique, si facilement, aujourd'hui, on la rejette, c'est pour les bonnes femmes, hein, c'est pour les religieuses. Mais la contemplation, non, c'est pas pour les hommes. C'est pas pour les hommes qui sont dans l'activité, qui sont dans l'efficience. Il faut surtout pas ça. Et donc la contemplation philosophique disparaissant, la contemplation mystique n'a plus de fondement. Et très vite, elle est considérée comme purement imaginative. C'est très curieux, ça, mais ça, c'est l'astuce du démon, hein. D'arriver à supprimer les fondements pour arriver à la causalité matérielle comme l'unique causalité, le matérialisme, le positivisme, le matérialisme. C'est ça, ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a le règne de la causalité matérielle. Et partout où le communisme a régné, il a tué l'âme d'un pays. Il ne s'est pas contenté de tuer l'âme de l'individu, mais il a tué l'âme d'un pays. Ça, c'est très net. Et ça, c'est la grande victoire du démon. Alors, en tant que chrétiens pour nous, nous voyons que l'encyclique du pape, la dernière encyclique du pape, est vraiment dans le point de vue de la théologie de l'économie divine, un sommet, un cri du Père pour ses enfants. Attention, attention. S'il n'y a plus d'enseignement philosophique qui atteint la sagesse, vous brisez toute théologie. Il n'y aura plus de théologie. Et donc, il n'y aura plus ce concours, le plus éminent qui soit, de la foi se servant de l'intelligence humaine. C'est quand même la coopération la plus parfaite et la plus grande. Et ceci dépend de cette découverte d'une philosophie qui touche la sagesse, qui atteint la sagesse. Oui. Donc ça, il faut se le rappeler tout le temps. Il faut le rappeler au point de départ, mais il faut se le rappeler tout le temps. Parce que c'est le grand mal d'aujourd'hui. C'est le grand mal d'aujourd'hui. Et l'encyclique du Saint-Père sur le lien entre la foi et l'intelligence proclame que cette coopération de la foi avec l'intelligence doit exister, mais elle ne peut exister que si l'intelligence a atteint la sagesse. Si l'intelligence n'a pas atteint la sagesse, on ne peut pas aboutir à une vraie théologie. Oui. Alors, c'est ça auquel on doit être très attentif aujourd'hui. Et donc, on devra être particulièrement attentif à tout ce qui essaie de remplacer la philosophie première par telle philosophie. Parce que la suppression de la philosophie première, officiellement, quoique, elle rebondit tout le temps, n'est-ce pas, puisque de nouveau on donne un cours de philosophie première en Sorbonne. De nouveau. Alors qu'au fond, c'était supprimé. Il y avait des cours d'histoire de la philosophie, ça oui, d'histoire de la philosophie. Mais on ne faisait plus un cours de philosophie première pour elle-même. Et on tendait à supprimer ça même pour le programme de Pachot, en considérant que c'est tout à fait inutile. Et c'est vrai, le cours de philosophie première est inutile. Oui, je me souviens à Fribourg, quand on commençait à faire un cours de philosophie première, donc de métaphysique, il y avait toujours quelques étudiants malins qui, sur une grande feuille de papier, posaient la question: quelle est la nécessité de la métaphysique? Point d'interrogation. Pourquoi faire de la métaphysique? Point d'interrogation. Il y avait toute une série de questions comme ça pour montrer que, en définitive, la métaphysique, c'était inutile. On était dans le domaine du luxe. luxe de la pensée. Donc, inutile. Ça ne sert à rien au point de vue de la technique, ça ne sert à rien au point de vue de l'efficacité, ça ne modifie rien du tout, complètement inutile. Oui, et c'était très significatif. Alors, ceux qui avaient compris que l'homme vit avant tout d'amour, comprenez que l'amour aussi, c'est inutile. Hein? Catégorie inutile, l'amour. C'est pas utile. Quand vous dites à quelqu'un, je t'aime parce que ça m'intéresse, ça me permet d'avoir de l'argent. La personne vous renvoie en disant, si tu m'aimes pour mon argent, tu ne m'aimes pas. Et c'est vrai, tu ne m'aimes pas. On aime pour autre chose, pour la personne. Et l'amour regarde la personne. Et la philosophie première regarde la personne. Alors vous voyez, on entre vraiment dans un domaine, une catégorie nouvelle. Et on y entre par la porte de l'intelligence. On peut y entrer par la porte de l'amour quand on a affaire à des intelligences qui sont fixées sur la science moderne. Positivisme. N'existe que ce que la science peut mesurer et dont la science peut parler. À ce moment-là, l'autre voie d'accès à la sagesse, c'est l'amour. Vous voyez ? Donc vous avez les deux grandes voies d'accès. Pour la sagesse. Comprendre que l'intelligence humaine, dans sa recherche de la vérité, ne peut pas s'arrêter à la loi. Que la loi, très très bien, mais la loi ne nous dit pas ce qu'il y a de plus profond en l'homme. Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, vous le savez bien, ce sera la découverte de votre âme. La découverte de l'âme ne se fait pas par la science. Mais la découverte de l'âme, c'est le premier moment où, de fait, vous dites au revoir au positivisme. Le positivisme ne peut rien vous dire sur l'âme. Et le positivisme gagne la philosophie à tel point que quelqu'un comme Merleau-Ponty, le premier Merleau-Ponty, parce qu'il y a eu une conversion chez Merleau-Ponty, mais il est mort très peu de temps après sa conversion, parce que peut-être ça n'aurait peut-être pas duré, alors Dieu l'a pris au bon moment. Il y a le second Merleau-Ponty qui recherche l'être sauvage, et grâce à l'être sauvage, on découvre l'âme. Mais l'être civilisé, il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus d'âme dans l'être civilisé. Dans la culture d'aujourd'hui, il n'y a plus d'âme. Complètement supprimée. Parce qu'on est dans un domaine de science. C'est la science qui règne. La relation. Et on ne dépasse pas la relation. Pour découvrir l'âme, il faut découvrir un principe. Une cause au-delà de la loi. L'âme, c'est le principe de la vie. Elle est cause propre de vie. Et dès qu'on découvre ce principe, on ne peut plus être positiviste. Impossible. Parce qu'être plus précieux échappe à la méthode scientifique, échappe aux mathématiques. Les mathématiques ne peuvent pas décrire l'âme comme mathématique. Le savant mathématicien comme homme découvre l'âme. Et les mathématiques peuvent l'aider. Et les mathématiques non pas comme objet propre à la découverte de l'âme. Seule la philosophie du vivant, de l'homme vivant, de ce vivant particulier qui est l'homme, c'est celui qui m'intéresse. Alors, on découvre l'exigence du dépassement de la science par la voie de l'intelligence, la recherche de la vérité. La vérité ne peut pas se contenter de la relation. Ça, c'est très très important à comprendre. La vérité, la recherche de la vérité, la recherche de ce qui est. Ce qui est ne s'explique pas par la relation. Le devenir s'explique par la relation, mais pas ce qui est. Donc ça, c'est la première recherche. Découvrir au-delà du devenir ce qui est. Et découvrir que le devenir n'existe que par ce qui est au-delà de lui, ce qui est. Et puis l'autre voie, c'est par l'amour. La sagesse, c'est vrai, elle est faite pour la contemplation. Saint Thomas, cette expression très belle, quand il dit que la sagesse, c'est habitus contemplativus. La sagesse est un habitus contemplatif. Alors, par l'amour, l'amour de la vérité, je découvre qu'il faut dépasser la relation. Il faut dépasser la loi. Il faut dépasser les recherches scientifiques, mathématiques. Il faut les dépasser pour aboutir à l'homme. L'amour d'amitié. L'expérience que j'ai de l'amour d'amitié. Mon ami n'est pas une relation. Mon ami, c'est celui qui m'attire, c'est celui que je recherche, c'est celui que j'aime. Et mon ami est au-delà de cette relation amicale qui existe entre deux amis. Cette relation amicale est très belle, mais cette relation amicale a un fondement comme toute relation, qui me fait découvrir l'ami dans ce qu'il a de personnel, dans ce qu'il a d'unique. Et c'est lui que je cherche, et c'est lui que j'aime. L'amitié ne consiste pas à aimer la relation que j'ai avec une personne. L'amitié consiste à aimer la personne. Et je constate alors que l'amour d'amitié ne peut pas se justifier par le positivisme, par la connaissance, par les relations. Il y a quelque chose de plus, quelque chose qui dépasse toute relation. C'est la source même de ces relations, l'ami. Et l'amour d'amitié, me conduisant à cette réalité de l'ami, à ce qu'il y a de tout à fait propre à l'ami, exige de moi, si je veux aller jusqu'au bout, exige de moi de découvrir ce qu'est la personne humaine. Et pour découvrir ce qu'est la personne humaine, il faut une philosophie première, une métaphysique. Parce que l'ami est au-delà du devenir. Il y a en lui quelque chose. quelque chose d'absolu. Vous voyez, c'est très important de voir que la philosophie première s'impose à moi comme sagesse. La philosophie première s'impose à moi par l'ami. Les deux, en quelque sorte, les deux sources qui m'obligent de commencer cette recherche nouvelle, au-delà de tout positivisme, au-delà de tout mathématique, de découvrir le premier vivant, le premier être, Dieu. Et de découvrir dans l'autre l'ami, sa personne, ce qu'il peut être pour moi, comme personne, au-delà de toute relation, au-delà de toute utilité, c'est lui. Lui, aimé pour lui-même, aimé en ce qu'il a de plus profond et de plus intime. Je crois que ce sont les deux sources, les deux buts, les deux finalités qui me permettent d'atteindre la sagesse. Une voie très verticale, la recherche de Dieu, la recherche de l'être premier. Ce que le Saint-Père met en pleine lumière pour la recherche de la théologie. Puis l'autre recherche horizontale, mais super horizontale, ce qui dépasse l'horizontale. L'ami. L'ami, je le découvre horizontalement. Il ne faut pas découvrir Dieu avant de découvrir mon ami. La première épître de Saint Jean ne serait plus valable. Je découvre l'ami dans une expérience d'amour. Dans une expérience spirituelle. Tandis que je ne découvre pas Dieu par une expérience. Non. Je ne peux pas découvrir Dieu par une expérience. Je peux dire que Dieu est un ami, mais au plan surnaturel. Je ne peux pas le dire au plan naturel. Je n'ai pas l'expérience directe de l'amitié de Dieu, au plan philosophique, au plan humain. Alors, c'est important, vous voyez. C'est très important pour nous de comprendre ces deux aspects. Je suis, si je veux aller jusqu'au bout de ma recherche, je ne peux atteindre la sagesse au niveau intellectuel qu'en atteignant le premier existant. Le premier être, Dieu, mon créateur. Et je ne peux atteindre la sagesse qu'en découvrant mon ami. Et dans le monde d'aujourd'hui, je crois que c'est très important de poser les deux. Vous voyez, au fond, on le verra, c'est par l'éthique, la voie affective, parce que l'éthique commence par l'amour, la voie affective et la voie intellectuelle. Et ces deux voies sont inséparables. Je ne peux pas les séparer. Si je les sépare, je fais un schisme et je deviens malheureux. Je divise ce que Dieu ne veut pas qu'il soit divisé. Ce qui, dans la sagesse, est toujours uni. Il y a l'union entre l'intelligence et l'amour. C'est ça qui est si particulier à la philosophie première. C'est ça qui est si particulier à la métaphysique. Il y a l'union des deux. Alors, il y a l'union des dieux, des deux. Il y a un aspect plus important de l'intelligence, un aspect plus important de l'amour. Et on peut dire que là, on est en présence de deux sagesses différentes qui ne lutteront pas parce que elles ont la même finalité. La même finalité. Mais il peut y avoir des moments de séduction plus grande. Il peut y avoir des moments de rivalité. L'amour, à certains moments, me séduit d'une manière tellement forte. Je dis, oh, l'intelligence, la raison, non, laissons tomber. C'est faux. L'amour sans l'intelligence se dégrade terriblement vite. Et c'est l'imaginaire qui l'emporte. Et on n'est plus en face d'une, on n'est plus en face que d'une caricature de la sagesse. Et c'est intéressant de voir toutes les caricatures de la sagesse. Il y a des artistes parmi vous qui aiment les caricatures. Alors, soyez artistes quant à votre intelligence pour découvrir les caricatures de la sagesse. Et c'est toujours, toujours l'imaginaire qui veut l'emporter sur l'intelligence. Tout le temps. Alors, à ce moment-là, l'amour a un moment d'euphorie. Je dis bien un moment d'euphorie où l'amour a l'air d'être libéré de l'intelligence. On ne se libère pas de l'intelligence. On ne peut pas se libérer de l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est ma vie, au sens le plus fort. Il faut un suicide pour se libérer de l'intelligence. Mais on croit se libérer. Et c'est ce moment d'euphorie imaginatif où l'amour semble pouvoir voguer, se développer, s'épanouir tout seul. En réalité, c'est l'imaginaire qui prend possession de l'amour. Et l'alliance de l'amour et de l'imaginaire conduit à la folie. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. À la place de la sagesse, on voit cela, cette alliance folle de l'amour avec l'imaginaire, en rejetant violemment tout le point de vue de l'intelligence. Là, vous n'êtes plus en face d'une philosophie première, vous êtes en face d'un règne imaginatif qui veut s'aliéner l'amour spirituel et le transformer. Alors ça, je crois que c'est très important à bien comprendre. Oui, au point de vue du réel, nous avons donc deux points sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour comprendre pourquoi la philosophie première. Pourquoi refaire vivre cette philosophie première? Et à côté de cette philosophie première aristotélicienne, voyez la philosophie première moderne qui veut remplacer la philosophie première aristotélicienne par une philosophie première soit purement aïdéitique, purement de la pensée, qui soit dans la phénoménologie. Alors, on voit à ce moment-là que cette philosophie première a quelque chose de très particulier, parce que à la place que ce soit le jugement d'existence, ceci est la réalité qui soit le point de départ. Le point de départ, c'est le vécu intellectuel, la mise entre parenthèses de l'être. Si je mets entre parenthèses l'être, je crois me libérer du jugement d'existence et d'entrer dans une philosophie première qui est purement subjective, qui est à l'intérieur du vécu intellectuel, et uniquement à l'intérieur du vécu intellectuel, donc qui n'atteint plus l'être, mais qui n'atteint plus que l'intentionnalité, le connu, le vécu de l'intelligence. Et ça, je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est la terrible tentation qui demeurera quand vous aurez 45 ans ou 50 ans, ayant fait de la métaphysique quand vous aviez 30 ans ou 20 ans, il y aura la tentation d'aller vers quelque chose de plus facile à saisir, de plus immédiate, la place de regarder la réalité telle qu'elle est. Vous regarderez la réalité à travers le vécu de votre intelligence. Et le vécu de votre intelligence, c'est justement quelque chose qui n'est plus l'être. C'est vous, votre vécu intellectuel, qui fait comme une grosse barrière, alors que ça devrait être quelque chose qui est au service de la réalité. Il faut essayer de comprendre ça. C'est ce qu'on appelle l'upoké de Husserl. L'upoké de Husserl, c'est la mise entre parenthèses de l'être pour donner à l'intelligence humaine un développement d'une liberté nouvelle s'installer dans le vécu. Et vivre dans le vécu intellectuel, vivre dans le vécu affectif, vivre dans le vécu. C'est donc ce que l'intelligence humaine a absorbé, a assimilé, qui devient l'objet principal, l'objet propre de cette philosophie première. C'est la phénoménologie qui a remplacé la philosophie première réaliste d'Aristote. Alors, je crois que c'est cela que nous devons essayer progressivement ensemble de découvrir. Et pour maintenir cela, nous le faisons par amour pour la vérité. Et c'est vraiment l'amour de la vérité qui nous conduit. Par amour pour la vérité, et nous le faisons en tant que chrétiens par fidélité au magistère, puisque le Saint-Père le demande dans une encyclique. C'est ça qui est très beau, c'est pas seulement pour nous, c'est pour toute l'Église. Alors ne disons pas, parce que ça fait partie d'une tentation ça, disons pas qu'en faisant une philosophie aristotélicienne, nous nous mettons à l'écart de la philosophie moderne. Nous mettons une grosse clôture, une porte dorée entre la Sorbonne et nous. Puisque la philosophie aristotélicienne n'a plus cours comme monnaie courante de la philosophie aujourd'hui. Ce sont des spécialistes, Or, le spécialiste n'est pas un sage. Ce sont des spécialistes. Je suis spécialiste d'Aristote. Vous comprenez bien que j'étudie Aristote, pas pour être un spécialiste d'Aristote. J'étudie Aristote parce que il m'aide à découvrir la vérité. Il a un regard sur le réel, sur l'homme, qui m'intéresse. Parce qu'il dit certaines choses qui ont été oubliées, mis dans les oubliettes et complètement rejetées. C'est pour ça que je m'intéresse à ça. Et croyez bien que si je recherche une vérité jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la découverte de la sagesse, si je fais cette découverte de la vérité jusqu'au bout, mon intelligence, loin de diminuer en réfléchissant sur elle-même, mon intelligence gagne en soif, en désir de vérité. Plus je découvre la sagesse, plus j'ai soif de la sagesse. Plus je découvre la vérité, plus j'ai soif de la vérité. Et donc, mon intelligence, en recherchant la vérité, augmente son appétit vital, augmente sa capacité de découverte, puisque c'est toujours le désir de la vérité qui agrandit ma possibilité de la découvrir. C'est au point de départ. S'il n'y a pas ce point de départ dans une recherche philosophique, cette soif de vérité, ce désir de la vérité, très très vite, je m'arrêterai. Parce que c'est pénible, c'est difficile de rechercher tout le temps la vérité. Ça exige une assaise très grande. Ne pas se laisser prendre à droite ou à gauche par des choses plus faciles. C'est rude et c'est pas commode. Alors, plus mon intelligence cherche la vérité, plus mon intelligence grandit dans sa capacité de vérité. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Et pas du tout comme la capacité de manger, n'est-ce pas ? À un moment donné, ça suffit. Autrement, ça va déborder. Ça vous suffit. Dans l'intelligence, ça ne déborde jamais. Si je recherche tout le temps la vérité, si j'ai le courage de ne jamais tomber dans la séduction imaginative, si j'ai le courage de rechercher tout le temps la vérité, telle que le philosophe peut la découvrir, alors il n'y a pas de débordement. Aucun. Il y a une recherche de vérité qui rend mon intelligence plus aiguisée, plus pénétrante, et qui saisit davantage ce qui est, ce qui n'est pas, et qui revient tout le temps à ce qui est, puisque toute ma philosophie réaliste se fonde sur ce jugement d'existence. Et c'est ce jugement d'existence pris dans ce qu'il a d'ultime, la recherche de ce qui est, qui me conduit à la philosophie première.